Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Laurent Duc, le président de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Laurent Duc, bonjour.
Bonjour.
L'Euro 2016, c'est dans 10 jours seulement avec l'arrivée de dizaines de milliers de supporters à Lyon et à Décines. Est-ce que c'est l'effervescence en ce moment chez les hôteliers?
L'effervescence, c'est si on était complet. Nous ne le sommes pas. Donc, on recevra les gens qui ont réservé comme ils sont dus, s'ils peuvent encore arriver, si d'ici là, il y a encore de l'essence dans les stations service, qu'il n'y a plus de voitures de police qui brûlent et que les autorités locales de chaque pays européen donnent un regard complaisant à l'avenue de leurs ressortissants dans notre pays.
Il y a environ 14 000 chambres dans la métropole de Lyon. Vous êtes en train de nous dire donc que qu'elles ne sont pas encore toutes prises, c'est difficile à croire face à cet événement.
D'abord, il faut faire le pendant. 14 000 chambres, ça fait 28 000 personnes couchées à peu près, puisque c'est des chambres pour deux personnes.
Oui.
Le stade fait 60 000. L'offre hôtelière n'est pas la seule offre d'hébergement à Lyon. Mmh. Et il s'avère quand même qu'aujourd'hui, vous avez une offre parallèle qui ne respecte pas les mêmes règles que l'hôtellerie, loin de là, puisque c'est l'hébergement collaboratif. Et cet hébergement collaboratif, aujourd'hui, se glosse d'être complet et de représenter plus de 8 000 chambres, donc 16 000 personnes logées sur Lyon.
Et donc, c'est vraiment ça, le type Airbnb, qui vous empêche, vous, les hôteliers traditionnels, de remplir vos chambres, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs?
Aujourd'hui, il y a plusieurs effets. D'abord, il y a l'effet réservation. Il faut savoir que les agences qui avaient réservé des chambres dans nos hôtels nous ont rendu des allotements à 90% parfois. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à vendre en ligne et en avance billets et chambres. Que là, il y a eu une revente de billets. Elle s'est fait peut-être de façon plus locale et non moins internationale. En tout cas, des pays qui jouent. Qui vont jouer à Lyon. Et l'autre effet, c'est que les gens réservent de plus en plus tard, quel que soit le type de manifestation. On achète son train une heure avant que le train parte. Et au moment où on achète son billet de train, on réfléchit à l'hôtel qu'on va acheter au bout. Donc, le fonctionnement des personnes a changé. Aujourd'hui, le consommateur réserve au dernier moment et à toute vitesse. Pour la Coupe du Monde de foot en 98, on avait des réservations. Les hôtels étaient quasiment pleins un mois avant et à 70% trois mois avant.
C'est positif ça, alors ça veut dire que ça peut se régler dans les tout prochains jours.
Alors espérons-le, aujourd'hui l'image que donne la France à l'étranger est absolument négative. Vous avez des télévisions allemandes qui disent à leurs ressortissants évitez la France pour aller en Italie, évitez la France le plus possible, ne séjournez pas en France, traversez la France pour aller en Espagne. Donc il y a bien un problème d'image quand on voit des voitures de police brûlées, il est clair que les gens ne vont pas essayer de séjourner à Lyon et s'ils n'avaient pas franchement validé l'idée d'aller à un match de foot à Lyon, eh bien ils ne viendront pas.
Il y a cette forte attente donc chez les hôteliers pour réussir un coup cette saison, c'est important du point de vue économique. Ça ne vous empêche pas, vous, de pousser un coup de gueule, vous appelez les hôteliers à ne pas reverser les taxes de séjour à la métropole de Lyon durant les prochains mois. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est emblématique. Alors pourquoi on a choisi l'euro? Parce qu'au moins, sur le papier, on devrait tous être complets ce jour-là. Et ça sera le moment de mesurer ce que peut verser l'hôtellerie lyonnaise et l'hôtellerie généralement dans les villes qui organisent l'euro. Il y en a 9 qui collectent la taxe de séjour. Lens n'en collecte pas. Les hôteliers ensemble ont décidé collégialement de faire effectivement le chèque de la taxe de séjour de la période de l'euro et de le mettre dans une boîte aux lettres en attendant l'image que fera le versement de cette taxe de séjour des opérateurs qui collecteraient la taxe de séjour et qui ne la collectent pas aujourd'hui pour l'hébergement collaboratif. Puisque on sera soi-disant tous complets, voir ce qu'ils versent et le nombre de personnes qu'ils déclarent, puisque l'État se doit d'assurer la même collecte pour le même impôt auprès de tous les contribuables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Pour la métropole, pour son président Gérard Collomb, vous prenez le problème à l'envers, puisqu'ils se disent à vos côtés. Ils précisent que cette taxe est souvent réutilisée pour aider les hôtels à se rénover, aussi pour créer des événements, pour attirer des touristes, des personnes qui ensuite iront dans les hôtels. Est-ce que c'est vrai ça, Laurent Duc? Est-ce que vous frappez la main qui vous nourrit?
Est-ce que c'est pas nous qui nourrissons la main qui nous frappe? Reprenons-le dans l'autre sens.
Ouais.
Je respecte beaucoup les engagements qui ont été pris aux côtés des hôteliers, mais qui ne sont pas les seuls acteurs touristiques lyonnais. Et lorsque vous ne représentez pas même le tiers des touristes et que vous représentez 90% de cette collecte, vous êtes en droit d'avoir des exigences de la réciprocité de cette collecte. Aujourd'hui, que ce soit Lyon, Marseille, Paris et toutes les villes concernées par l'euro, le problème est d'ampleur. Nous avons une concurrence complètement déloyale sur l'hébergement collaboratif qui n'y répond à aucune règle, aucune taxe, aucune forme de déclaration alors que les textes existent et qu'ils ne sont pas appliqués. Donc nous demandons clairement et fermement nous ne pouvons pas déverser du fumier dans la préfecture, bloquer l'entrée de la ville avec des taxis ou des tracteurs. Notre seule façon, c'est de demander l'application de la réciprocité d'une taxe. Et c'est pour ça que les UMI départementales, et notamment l'UMI de Lyon, se verra boîte aux lettres de recevoir ces chèques de la taxe de séjour pour voir ce qui sera collecté dans l'hébergement collaboratif.
Vous avez évoqué l'image déplorable que peut avoir notre pays en ce moment dans certains médias étrangers. On peut aussi parler de l'image des hôteliers avec ces chiffres qui sont sortis sur la hausse des prix durant l'euro. On parle d'une moyenne de plus 25% à Lyon, ça fait une chambre à 134. Quand de l'autre côté, on voit qu'effectivement, les logements de type participatif, on peut trouver des chambres en presqu'île à une vingtaine d'euros. Vous êtes conscient qu'il y a quand même ce problème-là?
Alors d'abord, est-ce que lorsque vous logez dans un hôtel, vous allez ouvrir la porte de votre chambre pour laisser passer quelqu'un d'autre qui va utiliser votre salle de bain et la chambre qui sera communicante à la vôtre? Ça, c'est non. Le premier point pour 25 euros. Déjà, comparons ce qui est comparable. Et ne comparons les extrêmes. Personne n'est venu me rembourser la totalité de l'annulation du 8 décembre lorsqu'elle n'a pas eu lieu l'année dernière,
oui.
À quelques moins d'un mois de la manifestation. Vous pouvez imaginer le vide financier que ça a été lorsque vous bâtissez votre chiffre d'affaires annuel, incluant cette manifestation. Personne n'est venu me voir en me disant « Oh, ben les pauvres attentats, vous n'allez pas faire le 8 décembre, on va vous trouver des fonds pour vous rembourser, on est allé pleurer auprès de personne. » Aujourd'hui, lorsque vous prenez votre billet pour aller à Marrakech au mois de janvier, il n'y a pas un chat, vous le payez 90 euros. Si vous y allez cet été, ça sera 500, monsieur. Donc, comprenez bien qu'il y a une question d'offre et de demande, que les gens qui veulent être contre le stade de Décines ou contre le stade de Geoffroy Guichard, alors qu'il n'y a que 1500 chambres à Saint-Etienne, eh ben, il va payer sa chambre plus cher que lorsqu'il n'y a pas de match.
Oui.
C'est une question d'offre et de demande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ne me dites pas que l'hébergement collaboratif ne pratique pas exactement le même type de yield management. Ils le font. Les chambres qui étaient à 90 euros plate Blescourt, elles sont à 250.
Bien sûr.
Et là, on n'est pas à 25% de plus. Les petits studios qui se louent à 90 euros place Bellecour ou dans le 5e arrondissement, aujourd'hui, ils ont triplé, voire quadruplé. Et Paris a exactement le même phénomène. Marseille, exactement le même phénomène. Donc, aujourd'hui, cet hébergement collaboratif jouit des mêmes prérogatives que nous. On ne les monte pas du droit parce que c'est rock'n'roll et que c'est moderne et que c'est dans l'air du temps. Mais c'est dans l'air du temps avec l'argent des consommateurs et pour des services qui sont loin d'être ceux de l'hôtellerie.
Et est-ce que vous sollicitez du coup l'État, un médiateur peut-être comme pour les taxis, pour régler cette solution? Parce que vous avez besoin de bonnes nouvelles, vous l'avez dit, après la fête des Lumières annulée, après ces attentats, après le succès des Airbnb, il faut repartir de l'avant désormais pour les hôteliers avant que la tendance ne s'inverse pour votre profession.
Alors le médiateur, il est très naturel, il s'appelle l'Assemblée nationale. Faisons passer les lois sur le numérique d'Axel Le Maire.
Oui.
Appliquons cette obligation de transparence au travers de ces opérateurs. Qu'est-ce qui change par rapport à avant? C'est qu'un opérateur offshore prend des commissions aux consommateurs et aux hôtes et en échange de ça, leur donne une lisibilité internationale sans aucune déclaration fiscale en France. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis pour le même opérateur, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays pour le même opérateur, où on lui impose la déclaration obligatoire au fisc. Aujourd'hui, vous pouvez louer un appartement dont vous n'êtes même pas propriétaire alors que c'est illégal. Mmh. Sur ce site, le pouvoir faire verser l'argent sur celui de votre sœur, voire même vos amis à l'étranger, personne ne vous demandera s'il y a une corrélation entre la propriété, la personne qui loue et le compte en banque qui est versé. Imaginez bien que c'est la plus belle façon de passer de l'argent à droite. L'État a constaté, la commission financière de l'Assemblée nationale a établi que seulement 15% des gens qui louaient sur Airbnb déclaraient leurs revenus. Donc, c'est très clair. Nous ne sommes pas sur un terrain d'égalité. Le législateur doit appliquer des lois qui s'appliquent à tout le monde et une transparence absolue sur ce type d'hébergement.
Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Il y a un vrai travail de lobby derrière tout ça, vous pensez?
Bah écoutez, il n'y a que 20 000 hôtels en France, ce sont 20 000 électeurs. Il y a 600 000 chambres, c'est 600 000 électeurs. Et encore, aujourd'hui, il faut voir quand même que sur Paris ou sur Lyon, vous avez des gens qui créent des avatars et vous avez des semblants d'hôtes et vous avez des personnes à Paris qui ont 150 appartements. 150 appartements, me dit-on, on ne peut pas dire que c'est de l'économie collaborative, on se moque de qui? C'est un faux profil. Une personne de 22 ans qui vous accueille, qui aime la mode et les soirées, bien sûr. Un appartement de 30 mètres carrés à 22 ans, on peut se lâcher. À Paris, c'est impossible, à 10 000 euros du mètre. Qui achète un appartement et le loue à 22 ans? Ce ne sont que les avatars. Donc, vous voyez, toute cette tromperie que le consommateur, sur ton de modernité et d'hébergement collaboratif, réclame, c'est un scandale. Le consommateur a le droit de choisir. Il peut choisir un appartement lorsqu'il a des enfants, qu'il veut rester longtemps, etc. Mais il n'y a aucune raison que la fiscalité soit différente.
Merci, Laurent Duc.
Merci pour m'avoir accueilli.
Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.